sommes dans la joie de nous tenir devant vous ce matin, de la part de Dieu, et nous voulons vous saluer au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Avant de continuer avec le texte qui a été proposé pour lecture ce matin, je vais bien vouloir, avec votre permission, commencer par un court témoignage. Si vous accordez, je vais y aller. Merci beaucoup. En me tenant devant vous, aujourd'hui, j'ai un certain âge. Il y a quelques temps, j'avais aussi un certain âge. Et c'est au cours de ce certain âge que j'ai connu beaucoup de situations dans ma vie, entre autres, quand j'étais jeune, je ne le suis plus. Je crois que je le suis encore. Mais à une période de ma jeunesse, c'est là que j'ai connu mon tout premier péché. La vie de péché, je l'ai connue, mais c'est quand j'étais jeune. Mais également, j'ai donné ma vie à Jésus quand j'étais jeune aussi. Amen. Ça veut dire, parmi nous, les jeunes qui sont là, je veux attirer l'attention de chacun, chacune d'entre vous, que vous n'êtes pas exemptés. Et du péché, non plus vous n'êtes pas exempté du salut. Amen.
Amen.
Les deux sont possibles dans votre vie en tant que jeune aujourd'hui. Cette semaine que nous venons, nous sommes en train de clôturer aujourd'hui, ça a été une semaine riche d'enseignements. Depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, les jeunes de Goma Ouest, ils sont en tout cas invités, ils ont été invités à l'enseignement, le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. En tout cas, nous avons été conviés à l'enseignement autour du thème « Le jeune chrétien et la gestion du temps pour le discipulat ». Le jeune chrétien et la gestion du temps pour le discipulat. Pourquoi ce thème a-t-il été choisi? Ce thème a été choisi parce que l'Église a estimé nécessaire de rappeler les jeunes, rappeler à ces jeunes que le temps que vous vivez, le temps que nous menons aujourd'hui, c'est un temps crucial. En tant que jeune, c'est un temps favorable pour que les jeunes non seulement comprennent la volonté de Dieu dans leur vie, pour qu'ils s'arrêtent à se conduire vaille que vaille, mais à regarder dans une direction que la Bible nous recommande. Et cette direction, c'est Jésus-Christ. Que ces jeunes arrivent à donner leur vie à Jésus. Telle a été la motivation pour inviter toute notre jeunesse autour de cet enseignement. Mais également, lorsqu'ils auront donné leur vie à Jésus, les jeunes seront allés vers les autres pour témoigner de ce qu'ils ont eu auprès de Jésus et amener les autres jeunes à suivre Jésus. Le lundi, nous avons suivi avec l'orateur du jour le thème, ils ont le sujet intitulé « Qu'est-ce qu'un jeune ? Qu'est-ce qu'un disciple de Jésus ?» Ça a été tiré du livre de Luc, chapitre 14, verset 25, jusqu'au verset 33, et 2 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 9. Lorsque Jésus parle du disciple, qu'est-ce qu'il voulait dire? Qui Jésus a-t-il identifié comme son disciple? Ce texte de Luc nous a bien éclairé que celui qui ne préfère pas Jésus à ses parents, à sa famille, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, en tout cas, il ne peut pas être son disciple. Mais c'est aussi cette personne capable de porter sa croix et s'engager à suivre Jésus. Le mardi, le sujet qui a été au rendez-vous était intitulé « Prenons de nouveaux engagements pour le disciple ». Et ça a été tiré de Romains, chapitre 12, le verset 1, jusqu'à 2. Ici, les jeunes ont été appelés à ne pas se conformer au temps présent, mais à être transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu dans leur vie. Le jour suivant, le mercredi, le sujet était formulé de la manière suivante. Comment vivre le discipulat en famille? Comment vivre le discipulat en famille? Il fallait que les jeunes apprennent comment se comporter en famille. Parce que c'est la vie des disciples aussi. Certains nous ont dit que la famille, c'est un passage obligé. Et personne n'a choisi sa famille, n'est-ce pas? En tout cas, nous héritons cette famille et nous n'avons pas à nous leurrer par rapport à ça. Alors, les jeunes, comment vont-ils se comporter dans cette famille? La Bible nous a dit, dans Éphésiens, chapitre 6, 1 à 4, que quand nous sommes en famille, comme enfants, apprenons à obéir. Obéir à nos parents. Même Jésus lui-même, de qui nous tirons le modèle, il a appris à obéir à son Père. Si vous lisez Hébreux, on ne va pas lire, Hébreux chapitre 5, verset 7 et suivant, vous allez comprendre que Jésus n'est pas arrivé à rentrer dans l'histoire du salut de l'humanité sans passer par l'obéissance. C'est l'obéissance à Dieu qui l'a amené à devenir l'auteur même du salut pour l'humanité. Ça veut dire, le péché qui est entré dans l'humanité par la désobéissance, pour le déraciner, il fallait que Jésus adopte cette méthode de l'obéissance pour enlever le péché du monde. Alors, les enfants en famille, pour que vous arriviez également à vous réaliser au sein de cette famille, vous devez apprendre à obéir à vos parents. Mais il y a eu aussi une interpellation auprès des parents, que vous aussi, comme parents, n'irritez pas les enfants. Parce que ces enfants, ils ont également besoin de vous. De vous regarder comme modèle. Comportez-vous en conséquence. Amen. Comment témoigner devant un intellectuel? C'était le thème, le sujet du jour suivant, de Jésus. Comment témoigner auprès d'un intellectuel? Là, le texte, c'est le texte choisi par l'officiant du jour, c'est Actes 17, 16 jusqu'à 34. Là, nous sommes avec Paul, cette fois-ci à Athènes, où il y a les savants, en tout cas tous les ténors, tous les tenants du savoir, s'il faut le dire comme ça. Et Paul est amené à parler de Dieu, à parler de Jésus devant cet auditoire aussi complexe sur le plan du savoir. Par où devait-il commencer? Alors, de la stratégie de Paul, il a été retenu que 1. Paul s'est adapté à son auditoire parce qu'il a compris l'auditoire devant lequel il s'était né. Il s'est adapté à cet auditoire. Il a puisé dans la tradition, dans la philosophie, dans le quotidien de cet auditoire pour véhiculer le message. Il a observé ce qui était autour et il a dit, « Je vous ai regardé, vous tous, peuple athénien, et en parcourant les rues de votre ville, je réalisais que vous êtes extrêmement religieux. Parce que partout où je passe, je vois toutes les effigies. J'ai vu les monuments, même une inscription sur l'un de vos temples qui dit à un Dieu inconnu. Vous êtes extrêmement riche. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de ces dieux-là que vous vénérez sans le connaître. C'est de celui-là que je veux vous parler. Il a d'abord compris la tradition et il a puisé de ça pour véhiculer le message. Et la suite, elle a été connue. Le vendredi, les jeunes ont été instruits sur comment amener une âme à Jésus. et que cela, c'est un devoir pour chaque jeune. À la lumière du texte de Matthieu, chapitre 28, le verset 18 à 20. Hier samedi, les jeunes ont suivi l'enseignement autour de la place du mentorat dans le discipleship. En fait, il n'y a pas d'élève sans maître. Il n'y a pas d'étudiant sans professeur. L'un est fonction de l'autre. Dans la vie de la jeunesse, nous avons besoin de repères dans notre vie, dans cette vie. Nous avons besoin de monuments, des icônes qui influencent d'une manière ou d'une autre notre vie. Le mentor, le tuteur, le parrain, est-ce que vous l'avez dans votre vie? Ça, c'était l'enseignement que les jeunes ont pu suivre hier. La place du mentorat dans le discipleship. Josué, qui s'est assis au pied de Moïse pour apprendre. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu l'héritier de la mission de Moïse. N'est-ce pas? C'est parce qu'il a eu le temps d'observer comment son maître se comportait. Qu'est-ce que son maître faisait? Quelle était la relation entre son maître et Dieu? Et il a adopté ça. Ce qui a fait de lui l'héritier même du rôle de Moïse. Vous voulez hériter mon rôle? Alors, mais regardez, et suivre ce que je fais, si je le fais bien, bien entendu. Vous voulez devenir X ou Y dans votre vie, donnez-vous un modèle. Mais le modèle par excellence, ici, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors, pour aujourd'hui, je vais compléter la lecture que l'officiant a fait au début par deux autres textes. C'est le texte de Éphésiens chapitre 5, 15 à 16 et 1 Timothée 4, 12 à 16. Éphésiens 5, 15 à 16. Si nous avons trouvé Éphésiens, je vais lire au nom de Jésus. Soyez vraiment attentif à votre manière de vivre. Ne vous montrez pas insensé, mais soyez des hommes sensés qui mettent à profit le temps présent, car les jours sont mauvais. 1 Timothée 4, 12, il est dit ceci. Que personne ne méprise ta jeunesse, que personne ne méprise ton jeune âge. Tout au contraire, soit pour les fidèles un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. En attendant ma venue, consacre-toi à la lecture de l'écriture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi, qui te fut conféré par une intervention prophétique, accompagnée de l'imposition des mains par le collège des anciens. Voilà ce que tu dois prendre à cœur. Voilà en quoi il te faut persévérer. Ainsi, tes progrès seront manifestes aux yeux de tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mets-y de la persévérance. C'est bien en agissant ainsi que tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Parole du Seigneur. Le thème, le sujet de ce jour, parce que nous sommes dans le thème global, les jeunes chrétiens et la gestion du temps pour le discipleship. Mais pour aujourd'hui, le sujet extrait de ce thème est formulé comme suit. Racheter le temps pour le discipleship. Il faut racheter le temps. Et on ajoute pour le discipleship. En fait, il est très important de rappeler à toute la congrégation que le temps, c'est une denrée, comment? Rare. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous qui l'avez dit. Et je suis parfaitement d'accord avec vous que le temps, C'est une denrée rare. Et que donc, chaque milliseconde, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, en tout cas, cela compte pour que notre vie soit réalisée, pour que notre vie soit complète. Le temps, il semble être oublié de beaucoup de personnes. Pourtant, c'est un élément essentiel de notre parcours sur cette terre. Il y en a d'ailleurs qui nous ont condamnés, je dis nous, parce qu'apparemment c'est dans nos traditions, qui ont dit, vous les Congolais, vous avez le temps, mais vous n'avez pas la montre. C'est pas différent, hein? Ils disent, vous avez le temps, mais vous n'avez pas la montre. Parce qu'ils ont vu la manière dont nous étions en train de gérer notre temps, et ils ont dit, ah, ces gens, vous avez le temps, mais vous n'avez pas la montre. Ça fait appel à quelques notions de la définition même du mot temps. Il y en a qui estiment que le temps peut être défini comme chrono. Vous connaissez tous le chrono, non? Voyez, quand nous regardons le match, il y a l'arbitre qui nous affiche, disons, qui fonctionne, hein, sur base d'un chrono. On nous affiche le chrono qui, une minuterie, donc, ça compte, ça fait un décompte, n'est-ce pas? C'est le temps. C'est le temps. Et il est exigé qu'on fonctionne suivant ces chronos. C'est le temps. Et c'est la montre que nous avons. Parce qu'elle compte. Alors ils nous ont dit, vous avez le temps, mais vous n'avez pas la montre. À voir comment on était en train de gérer notre temps. Nous avons voulu subdiviser cet enseignement en deux parties. La première partie, c'est nous allons parler de pourquoi acheter le temps. La deuxième, c'est quelques stratégies pour mieux gérer son temps. À la lumière des textes que nous avons lus, pourquoi racheter le temps? Pourquoi racheter le temps? Il n'y a pas que les jeunes qui doivent racheter le temps, mais nous les parents également, nous devons racheter le temps. La première réponse à cette question, nous la trouvons dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 3, 1 jusqu'à 5. En nous affichant ces textes, on va aller plus vite. Dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1 à 5. Sache bien ceci, dans les derniers jours surviendront des temps difficiles. Les hommes en fait seront égoïstes, aptes au gain, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, implacables, médisants, sans discipline, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par orgueil, amis de plaisir plutôt qu'amis de Dieu. Ils garderont les apparences de la piété, mais en auront renié la puissance. Détourne-toi aussi de ces gens-là. Pourquoi racheter le temps, bien-aimé? Nous allons racheter le temps parce que nous vivons les jours qui sont mauvais. Nous allons racheter le temps parce que nous vivons un moment particulier où le monde est plein de beaucoup de défis, beaucoup de situations qui semblent influer négativement sur la foi de l'Église. Il y a des faux enseignants, il y a des faux docteurs qui, par leurs enseignements, sont en train de détourner les gens de leur foi. Et nombreux jeunes, aujourd'hui, ils ont rétrogradé à cause de ces gens. Voilà pourquoi le message de ce matin nous exhorte à racheter le temps. Parce que les jours sont mauvais. Il y en a Paul qui est revenu sur ça en Éphésiens 5, verset 16. Parce que les jours sont mauvais, il faut racheter le temps. Il faut regarder sa montre et voir l'heure qu'il faut. Et compter les minutes pour bien gérer ses actions. Deuxième chose, pourquoi allons-nous racheter le temps? Nous allons racheter le temps car le temps passe vite. Ecclésiaste, le chapitre 12, le verset 1, qui suivant là où nous avons lu initialement, il nous est dit, souviens-toi de l'Éternel, souviens-toi de ton Seigneur, le jour de quoi? Au moment de ta jeunesse. Parce que viennent les temps où vous allez souhaiter venir dans cette phase de jeunesse. Et ça sera impossible. Parce que le temps passe vite, nous sommes invités à racheter ce temps-là. Mais une question ne passe pas l'esprit. C'est l'homme qui se trouve dans le temps, ou bien c'est le temps qui se trouve dans l'homme? Entre l'homme et le temps, qui inclut l'autre? Hein? C'est l'un ou l'autre? C'est l'un ou l'autre? Je pense que il faut une précision là-dessus. Parce qu'il y en a qui se comportent comme si ils sont dépositaires du temps. Ils considèrent que le temps se trouve en eux et ils peuvent se comporter comme ils veulent face au temps. Mais oubliant que ce temps, il s'écoule comme de l'eau de la rivière qui arrive et qui passe, qui arrive et qui passe. Un philosophe avait dit, on ne se lave qu'une fois l'eau de la rivière. Vous savez pourquoi? Nous qui avons vécu là où coulent les ruisseaux et les rivières, vous arrivez dans la rivière et vous voulez vous laver. C'est une seule fois que vous puisez cette eau. Quand ça coule de vos mains, ça passe. On ne reprend pas deux fois cette eau. Ce temps, il est précieux. Parce que c'est nous qui sommes contenus dans ce temps. Bien que ce soit l'homme qui ait fixé le temps en disant, il y a un passé, il y a un présent et il y a le futur. C'était la compréhension de l'homme. Mais ce n'est pas pour autant dire que c'est l'homme qui détient le temps. Non, il a juste compris le temps. Qu'il y a un présent, il y a un passé et il y a un futur. Voilà pourquoi nous devons racheter ce temps. Vous avez une montre, n'est-ce pas? Moi, je la regarde. Quand on regarde la montre, est-ce qu'on regarde le temps passé, ou bien on regarde le temps qui vient, ou bien on regarde... Et quelqu'un a dit, sur l'horloge du temps, on ne lit qu'un seul mot, c'est le maintenant. C'est le maintenant, il fait quelle heure? On ne lit pas deux mots, on dit maintenant, il est quelle heure? Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons racheter ce temps. Nous devons gagner notre temps. Nous devons nous inscrire dans ce temps pour poser nos actions. Je n'ai plus suffisamment de temps, mais je voudrais poser cette question. Que faites-vous de votre temps, bien aimé? Que faites-vous de votre temps? Martin Luther King nous avait dit, ce qui importe, ce n'est pas le temps que l'on vit, mais ce que l'on fait de ça. Voilà ce qui importe. Ce n'est pas le temps que l'on vit qui importe, mais ce que nous faisons de notre temps. Voilà ce qui est important pour l'homme. Qu'est-ce que vous faites de votre temps de l'homme? Ne rien faire, c'est perdre le temps. Ne rien faire, c'est perdre le temps. Mais également, mal faire ce qu'il faudrait faire. C'est aussi perdre le temps. Le faire au mauvais moment, c'est aussi perdre son temps. Comment gérez-vous votre temps? Comment gérez-vous votre temps? Bien. Avant de terminer, évoquons deux ou trois stratégies pour la gestion du temps. Le texte que nous avons lu en Timothée comme en Éphésiens, il nous rappelle la manière dont nous pouvons gérer le temps. C'est d'abord savoir fixer les objectifs. Savoir fixer ses objectifs. Si vous désirez être un bon disciple de Jésus, il faut identifier les objectifs que vous vous êtes assignés avec. Vous voulez suivre Jésus, pourquoi? Il faut bien identifier les objectifs. Pas comme l'homme riche, le jeune riche, qui a dit, Seigneur, je vais te suivre. Et quand Jésus lui a demandé de rentrer à la maison et vendre ses biens, est-ce qu'il est revenu? Il est revenu? Non, il est allé et il est resté là. Parce que il s'est mal senti. Et Jésus a dit, c'est très difficile pour un riche d'entrer au ciel. C'est vraiment facile pour une âme d'entrer dans, trouver ça. On manque d'objectifs dans sa suite de Jésus. On n'arrivera nulle part. Un bon disciple, il doit se fixer, il doit identifier ses objectifs avec Jésus. Si vous voulez être excellent dans l'organisation de votre temps, il faut savoir identifier vos objectifs pour la journée, vos objectifs pour le mois, vos objectifs pour l'année. Et vous serez excellent dans la gestion de votre temps. Deuxième chose, il faut évaluer l'utilisation actuelle de votre temps. Votre temps-là, comment vous le planifiez? À chaque seconde, chaque minute, quelle action vais-je poser? Il y en a qui ont des agendas, mais qui n'écrivent jamais dans ces agendas. Ils en ont pour la forme, mais ils ne les utilisent pas. Comment planifiez-vous votre temps? Il faut évaluer l'utilisation actuelle de votre temps. Quel temps réservez-vous à Dieu? Quel temps réservez-vous aux études? Quel temps réservez-vous aux loisirs? Quel temps réservez-vous à votre famille? Quel temps réservez-vous à la balade? Quel temps réservez-vous à X ou Y chose? Et la troisième et la dernière stratégie, c'est savoir identifier les facteurs qui gaspillent votre temps. Qu'est-ce qui vous amène à gaspiller votre temps? C'est votre téléphone? Parce que aujourd'hui, la génération Android, en tout cas, le téléphone, c'est le téléphone. C'est votre téléphone qui gaspille votre temps. C'est la télévision qui gaspille votre temps parce que quand il y a match de Real et je ne sais pas quoi, il faut tout abandonner pour. Qu'est-ce qui gaspille votre temps? Quoi? C'est le sport? C'est les balades? C'est les loisirs? Ou c'est quoi? Il faut savoir identifier ce qui gaspille le temps, notre temps. Bien-aimé, Paul nous interpelle comme église aujourd'hui. Il dit, rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Ne réservez pas ce que vous devriez faire aujourd'hui à demain. Parce que il y a celui qui a dit, qui a le temps? Qui a le temps et attend le temps, il perd le temps. Si vous avez quelque chose à faire aujourd'hui et maintenant, faites-le. En ce moment-là, n'attendez pas la prochaine fois. Parce que si vous estimez que vous avez le temps et que vous attendez le temps, alors vous perdez le temps. Je reste comme à l'ouest. Le Seigneur nous interpelle sur notre manière de vivre. Parents de Goma Ouest, le Seigneur nous interpelle sur notre manière de vivre. Comment gérons-nous notre temps? Et pour le Seigneur. Parce que on ne gère pas le temps pour le gérer, mais on le gère pour le Seigneur. Est-ce que le Seigneur a la place dans notre temps? Est-ce que Dieu a une place dans notre temps? C'est maintenant ou jamais que nous sommes appelés à une vie moderne. une vie de responsabilité, une vie exemplaire. Parce que le temps, nous n'en avons pas de vie, c'est maintenant. Bien-aimés, c'est par cette parole que le Seigneur est en train de nous interpeller. Vous et moi. Amen.